qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie?
Ce qui me fait marcher, ma famille et ma passion. Ma famille et ma femme et mon fils, qui est mon projet de vie, on va dire, c'est mon foyer. Et puis ma passion pour Mars que j'ai depuis tout petit. Voilà, ce qui me met des étoiles dans les yeux. C'est mon hobby, en fait, avec mon métier, je dirais, parce qu'en fait, la passion plus large, c'est la transmission, qui est la transmission du savoir que je fais dans tous les jours avec mes élèves. Et puis cette transmission aussi de ma passion via les photos que je traite.
Bonjour, Thomas Appéré est intervenu dans le cadre des conférences de la Société d'astronomie de Nantes sur le thème « Sublimes images des sondes spatiales ». Vous êtes enseignant en physique-chimie?
Tout à fait, ouais, je suis enseignant agrégé de physique-chimie au lycée Saint-Paul à Vannes.
Et docteur en planétologie.
Oui, voilà. En fait, j'ai commencé par faire une classe préparatoire en physique-chimie à Lorient, au lycée du Puy-de-Lôme. Et puis ensuite, je suis parti en école d'ingénieur à Grenoble, donc avec en tête de décrocher un diplôme d'ingénieur. Ce que j'ai fait en 2008, il y avait la possibilité de poursuivre en thèse en fait d'astrophysique. Donc j'avais ce rêve dans un coin de ma tête. J'étais dans un club d'astronomie. Voilà, j'ai toujours été passionné par l'astronomie. Puis l'opportunité s'est présentée à moi, donc j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, j'ai fait cette thèse en astrophysique où j'ai étudié la planète Mars et j'ai poursuivi un an en postdoc. Mais voilà, les conditions de recrutement dans la recherche sont ce qu'elles sont, assez restreintes. Et puis j'avais ce projet de vie, voilà. Je voulais me poser, en fait, au bout d'un moment, à 30 ans, on a envie de pouvoir se poser. J'ai réussi à trouver ce compromis où je continue d'enseigner. J'adore l'enseignement depuis toujours aussi. Et j'ai réussi à trouver ce compromis entre enseigner et puis continuer ma passion comme loisir, en fait. Voilà.
C'est compliqué de parler d'images de sondes, de belles images de sondes à la radio. Mais on peut peut-être expliquer un petit peu la démarche et votre travail. Il y a tout un groupe d'amateurs.
Alors, j'aime pas trop le terme amateur. En fait, amateur, je dirais plutôt passionné que amateur.
C'est amateur, pas péjoratif.
Non, voilà, mais...
Ça veut dire non rémunéré, c'est ça?
Non rémunéré, voilà. Plutôt bénévole ou passionné bénévole. Pas dans le sens amateur des gens qui découvriraient une technique ou autre. En fait, cette communauté regroupe des gens qui sont très qualifiés. Certains sont professionnels en fait dans l'infographie notamment. Ils sont infographistes, ils créent des images virtuelles ou autres, pas forcément à destination du spatial, hein, ça peut être tout autre, mais voilà, du fait de leurs compétences, ces gens sont aptes à traiter des photos de sondes spatiales et les partagent après avec le public sur internet notamment. Pour ma part, moi je suis enseignant, mais j'ai acquis pendant ma thèse des techniques de traitement d'images dont je réutilise certaines de ces techniques lors de mes traitements. Voilà.
C'est un réseau mondial ?
C'est un réseau mondial, oui, tout à fait. Oui, oui. Quand même majoritairement, je dirais, américain et européen. Au niveau asiatique, je ne connais pas encore beaucoup de passionnés. Il y en a certainement, mais les échanges se font moins sur Internet, en fait. On suit un peu moins leurs publications.
Et on peut quantifier ce réseau ?
Ah, c'est pas forcément évident. En fait, il y a une société américaine qui s'appelle la Planetary Society, donc qui a pour vocation de promouvoir l'exploration spatiale et qui regroupe sur une page sur leur site web en fait les plus belles publications de traitement d'image. Et donc j'ai fait la liste des amateurs de traitement d'image et on a à peu près une cinquantaine de personnes regroupées sur cette page, mais c'est vraiment pas une liste exhaustive. Il y en a beaucoup plus qui publient avec leurs amis ou autres. On trouve des pages Facebook comme ça où il y a des gens en fait qui vont chercher ces photos et qui s'amusent à les traiter sans forcément aller plus loin que les publier. Ils publient dans un réseau restreint. Ouais.
Est-ce qu'il faut se déclarer? Est-ce que vous êtes identifié?
Non, je ne suis pas identifié. Non, on fait ça en tant que... Enfin, c'est vraiment un loisir, en fait. Les photos sont gratuites. Elles sont accessibles à tout un chacun sur les plateformes Internet des agences spatiales, la NASA, l'ESA, l'agence européenne, ou la JAXA, l'agence japonaise. On peut télécharger ces photos, et puis ensuite, avec quelques tutoriels qu'on trouve dans les sites sur les forums de passionnés, on a les outils clés en main pour pouvoir les traiter. Voilà. Donc ça demande un peu de temps au début pour se faire la main. Mais ensuite, on arrive à obtenir des mosaïques. On peut assembler des photos entre elles pour faire des panoramas, mettre en couleur certaines photos qui sont noires et blanches. Voilà, il y a tout plein de choses à faire pour s'immerger vraiment dans ces autres mondes.
Thank you.
tous les matins, quasiment, je consulte le site de la NASA pour faire simple, hein, c'est le Jet Propulsion Laboratory. Et puis j'actualise la page pour voir ce qu'il y a comme nouvelle photo, en me disant bah, qu'est-ce que le robot a pris en photo, un peu comme si on humanisait le robot, alors qu'on sait bien que c'est des ingénieurs qui sont derrière les caméras. Mais on, voilà, on essaie de voir s'il n'y a pas un ingénieur qui aurait eu l'opportunité de faire des photos d'un lever de soleil ou de photos avec un soleil rasant aussi le soir ou le matin, qui sont des photos particulièrement esthétiques. Ce qu'on cherche aussi, c'est, voilà, c'est à faire des photos esthétiques. Ce n'est pas juste traiter des photos pour traiter des photos. C'est à faire des cadrages qui donnent l'impression d'avoir fait cette photo pendant nos vacances sur Mars, quoi, comme si on y était et qu'on avait ramené ces clichés pour nos amis.
Donc il y a un photographe sur Terre qui pilote
C'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a des Doug Ellison notamment, qui est... alors, lui, c'est marrant, c'est un Anglais, en fait, qui a commencé en créant un forum lié à sa passion pour l'astronomie. Et puis il a été embauché par la NASA, au final, pour piloter l'une des caméras du robot. Donc il est vraiment... il a fait le grand bond jusqu'au rover. Et voilà, il est chargé, donc, tous les jours, il y a des réunions qui définissent les objectifs... Des sites à prendre en photo. Alors ces objectifs sont scientifiques, hein. C'est pas tiens on va faire une photo là parce que c'est joli, c'est pas ça du tout, c'est plutôt telle ou telle roche est intéressante pour les géologues, donc on va plutôt la photographier avec tel éclairage parce que ça permet de comparer aux autres photos qui ont déjà été faites. Et puis parfois il y a des créneaux, on dit ah bon là il reste un peu d'énergie pour le robot, on va pouvoir faire des photos le soir ou le matin sur des créneaux, enfin voilà, ça peut apporter une information. Mais généralement, c'est une information scientifique, c'est pas une information esthétique.
C'est essentiellement Mars et Jupiter qui vous intéressent.
Alors, moi, c'est surtout Mars. Jupiter, j'ai pas encore eu le temps. En fait, c'est une question de temps. Hein. Si j'avais
c'est
le temps, j'irais.
Juno.
Oui, voilà. Site. J'ai parlé de Juno parce qu'il y a des photos magnifiques qui ont été faites par Sean Doran, un amateur, je crois qu'il est irlandais. Alors, pour ma part, c'est surtout. Je fais beaucoup de Mars. J'ai fait du Pluton aussi, du Ryugu, qui est un astéroïde exploré par les Japonais. Rosetta aussi, qui a exploré la comète Churyumov-Gerasimenko, j'ai traité ces photos-là. Puis je me suis, pendant les vacances d'été, là, je me suis penché un peu sur les photos des missions Apollo, parce qu'on fêtait les 50 ans d'Apollo 11, pour voir un peu ce qu'il y avait à faire. Mais bon, il y a tellement de données qu'on manque de temps, en fait. Je me concentre beaucoup sur Curiosity, parce que j'ai développé pas mal de techniques sur les photos que prend ce rover. Et puis... ensuite, voilà, quand des fois on découvre un nouveau jeu de données, on dit tiens, je vais fouiller un peu dans ce jeu-là. Et puis plus on apprend en fait de techniques et plus on prend du plaisir à les exploiter sur d'autres jeux de données pour voir ce qu'on peut en tirer.
C'est le côté esthétique.
C'est surtout le côté esthétique. En fait, ce qui me passionne, c'est de pouvoir se projeter virtuellement sur d'autres mondes. On ne peut pas voilà, actuellement y aller. On a nos émissaires robotiques qui y vont à notre place, que ce soit voilà, au sol avec des roues ou dans l'espace propulsé par des petits moteurs. Comme on ne peut pas y aller voir ces astres avec nos yeux, bah, j'essaie de faire des sortes de cartes postales qui donnent l'impression qu'on y est. Voilà. Donc c'est une sensation visuelle, alors on pourrait après essayer de rajouter une sensation auditive sur Mars. Il y aura bientôt un micro qui va arriver sur Mars avec la sonde Mars 2020. Et donc on aura les sons qu'on pourra rajouter à ces impressions, à ces sens. Mais c'est vraiment ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir explorer de nouveaux horizons comme si on y était.
Un collègue sur Mars.
Voilà.
Du son.
Ouais, exactement.
Est-ce que vos traitements, vos données peuvent servir aux scientifiques ?
Ces traitements peuvent servir. D'une part, les scientifiques n'ont pas le temps. Enfin, ils ont des plateformes sur des logiciels qui analysent les données et qui les projettent automatiquement de sorte à ce qu'ils puissent voir toutes les photos que prennent les rovers. Mais les photos sont juste positionnées les unes à côté des autres, la fusion n'est pas forcément parfaite. Donc le fait de retraiter ces données peut permettre de mieux visualiser tel ou tel objet, telle ou telle roche. Voilà. Maintenant, moi je ne m'attache pas forcément à suivre une démarche scientifique, donc à corriger les données parfaitement, ce qui est nécessaire quand on veut faire une étude scientifique. Par contre, là où je pense à ce que ça peut apporter aux scientifiques, c'est notamment d'étudier de vieux jeux de données qui étaient... à l'époque étudiés avec de vieux ordis. Par exemple, prenons les sondes Voyager qui ont parcouru le système solaire dans les années 70. Les ordis de l'époque n'étaient pas très puissants et il s'est avéré qu'un prof de philo, je crois, américain, qui est passionné de traitement d'image, a mis son nez dans ces données-là, a augmenté les contrastes avec nos nouveaux ordis et a découvert qu'une lune de Saturne a des geysers. Alors, on le sait depuis avec la sonde Cassini, mais en fait, la sonde Voyager, 40 ans avant, avait peut-être déjà détecté ces geysers. Voilà. Mais bon, on n'avait pas des ordis suffisamment puissants pour traiter les photos et faire apparaître ces subtils contrastes sur les photos.
Quelle est la nature de ce traitement ?
Moi, ce que j'essaie, c'est quand même, quand je vous dis carte postale, c'est carte postale, il faut qu'elle soit quand même réaliste. Il ne faut pas que ce soit dénature non plus ce qu'on verrait sur place. Donc j'essaie de me rapprocher de ce qu'on verrait. Et pour faire ça, déjà, j'essaye de lisser les défauts, de supprimer les défauts dans les photos. Par exemple, s'il y a des petites poussières qui ont été projetées sur les capteurs, supprimer ces poussières. Ça va être aussi de corriger les couleurs. J'ai remarqué que les photos prises par exemple par Curiosity sont toujours teintées un peu en vert. Bon, c'est un petit, pas un défaut, mais c'est une petite déviation dans la caméra. Et quand on consulte les photos, une fois qu'elles ont été calibrées par les spécialistes, donc ceux qui ont conçu la caméra, on se rend vraiment compte à ce niveau-là de la teinte verte, verdâtre, des photos brutes. Et donc là, en jouant sur les niveaux sur Photoshop ou GIMP, on peut réajuster les niveaux des couleurs pour retrouver les teintes plus proches de ce qu'on verrait à l'œil nu. C'est le genre de traitement que j'essaie de faire.
Ce que vous pensez.
Oui. Il faudrait qu'on y soit pour pouvoir vraiment dire « Ah, en fait, c'est comme ça ». Non, mais c'est tout à fait vrai. On ne peut pas savoir tant que l'humain ne sera pas allé pour le voir de ses propres yeux. C'est pas évident de définir exactement quelles sont les couleurs. Et je pense que l'œil humain verrait beaucoup plus de teintes et de nuances de beige, par exemple, sur Mars, que ce que voient les caméras. L'œil humain est un formidable appareil photographique. Donc, on essaie de se rapprocher des teintes qu'on verrait.
Et là, grâce au traitement, peut-être que vous allez découvrir ces fameux petits hommes verts.
Ah, pour l'instant, je ne les ai pas vus. Ou alors, ils ne sont pas verts. Ils sont peut-être beiges, ou ils se cachent bien sous les roches. Mais non, mais c'est vrai, ça, c'est amusant quand je parcours tellement de photos. Il y a ce petit plaisir aussi de se dire je parcours des photos que personne n'a jamais vues, à part quelques passionnés sur Terre et puis les scientifiques. Et on se dit toujours, tiens, on va peut-être tomber sur un fossile, un os de dinosaure, mais... Alors, je sais pas, une petite concrétion qui ressemblerait à des stromatolites ou autre. Non, ça paraît très hypothétique, parce que la présence d'eau sur Mars n'a a priori pas duré suffisamment longtemps pour que des formes de vie très évoluées apparaissent, si elles sont apparues. Mais on a toujours cet espoir que peut-être on se trompe et qu'on observera dans les photos des fossiles.
Peut-être que vous allez découvrir quelque chose.
Alors oui,
vous serez le premier.
Ouais, c'est ça. Ouais, alors premier. Je vous dis, il y a les scientifiques, c'est vrai qu'ils n'ont pas le temps de tout regarder. Ça, c'est un fait. C'est souvent les doctorants, en fait, donc ceux qui sont en thèse, qui parcourent les données à la chaîne pour essayer de trouver des choses que leurs directeurs de thèse n'ont pas trouvées. Après, parmi les passionnés, on peut aussi trouver des choses. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on discute ensuite sur les forums. Tiens, vous avez vu tel objet, qu'est-ce que ça peut bien être? Et on tombe souvent sur des spécialistes en géologie, notamment. Parce que là, on parle de planétologie, donc l'étude de la surface des planètes. On tombe souvent sur des géologues, dont certains qui font partie des missions. Donc en fait, les scientifiques traînent sur ces forums pour voir un peu les photos qu'ont remarqué les passionnés. Parce que ces scientifiques n'ont pas forcément le temps d'aller voir toutes les photos. Et ils comptent, c'est une sorte de... comment dire, de science participative où des gens parcourent ces photos et puis mettent le nez sur quelques petits trésors qui valent le coup d'être étudiés ensuite.
L'exploitation est gratuite ?
Oui, l'exploitation est gratuite. Alors ensuite, les photos sont gratuites. Et une fois qu'on les a modifiées, qu'on a apporté des traitements dessus, finalement, on est dans le droit de toucher des droits d'auteur.
Est-ce que vous créditez les vôtres ?
Je crédite les miennes, oui, tout à fait. Donc on peut les vendre par exemple, une société, une entreprise qui en ferait des cadres... peut nous payer des droits d'auteur dessus, ouais, tout à fait. On est dans le droit de... C'est une œuvre, finalement, c'est une œuvre photographique au titre où on l'a modifiée, on a apporté des traitements dessus.
Sur votre galerie d'images, vous mentionnez trois sources.
Oui.
Juno, on la met de côté parce que pour l'instant... C'est...
Pas le temps, j'ai pas le temps encore.
Et donc, il y en a une qui bouge.
Oui.
Et une qui, pour l'instant, n'est pas encore bien fixée.
Il y a Phoenix, qui est une sonde de la NASA, qui a posé un sismomètre sur Mars et qui essaie d'enfoncer aussi un thermomètre dans le sous-sol. Donc là, je m'étais aussi... un peu moins intéressant en termes d'imagerie, parce que du coup, comme il ne bouge pas, le paysage, ça ne change pas tellement. On peut toujours s'amuser des fois à faire des vidéos entre le matin, le soir, et voir les variations d'éclairage. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de faire des petits films animés où on voit les tentatives désespérées de l'équipe allemande de faire entrer leur thermomètre dans le sous-sol. Et là, ça se présente pas très bien parce que de nouveau, la taupe, on appelle ça la taupe, elle est ressortie, on l'a vu ressortir du sol martien. Donc ça paraît compliqué de prendre la température de Mars.
Par contre, il y a le petit rover.
Et le rover, lui, ça va bien. Il fonctionne sur une pile nucléaire. Enfin, on dit petit rover, il fait quand même la taille d'une bonne Twingo, donc... les caméras au sommet du mât sont à 1,90 m, donc sont plus hautes que nos têtes. Et lui, sa pile nucléaire fonctionnera encore une dizaine d'années à peu près, si on économise bien l'énergie, quoi. Donc il y a le temps encore de parcourir quelques kilomètres sur Mars avant de le voir s'éteindre. Mais entre-temps, un autre robot va prendre le relais, un autre coin martien assez intéressant, avec de nouveaux paysages à découvrir, donc en espérant qu'il atterrisse avec, déjà qu'il décolle avec succès, et puis ensuite qu'il atterrisse avec succès.
Jamais un côté monotone ?
Bah pour moi, non, voilà. C'est vrai que les paysages martiens, ma femme me dit souvent « Oh, c'est encore un désert, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de... » Mais moi, c'est ce qui me plaît aussi. Alors, ce recul, en fait, sur les photos, me fait prendre aussi conscience de la beauté de la Terre, hein. Finalement, quand on est hyper chanceux d'avoir... Cette vie luxuriante sur Terre, même si on n'y fait pas forcément très attention à notre époque. Mais le désert minéral qui est Mars, et puis les tas de gravats que sont les astéroïdes, ce genre de choses, c'est vraiment... moi j'adore en fait, c'est passionnant parce qu'on a l'impression de découvrir vraiment de nouveaux mondes.
Il y a à la fois les couleurs, mais il y a aussi les reliefs.
C'est ça, les reliefs, les... Et puis ouais, l'absence totale de végétation, en fait, l'absence totale de vie, ça fait penser aux coins les plus arides sur Terre. Jupiter et ses nuages, c'est pareil, c'est un monde, c'est totalement extraterrestre en fait. C'est ça qui est, c'est le décalage en fait. Ça paraît être un désert terrestre et en fait non, on n'est pas du tout. Le ciel n'est pas de la même couleur, les couchers de soleil sont bleus au lieu d'être rouges. C'est cette sensation de, ça ressemble à quelque chose qu'on connaît mais ça l'est pas. Voilà, c'est ça le côté extraterrestre en fait.
Du vent.
Sur Mars, oui, alors du vent, il y a du vent, ça peut souffler à plus de 100 km/h, mais la pression est tellement faible qu'en fait on sentirait qu'une petite brise à peine.
Ça se remarque
à peine. En fait, c'est suffisant quand même pour soulever la poussière. Donc, on peut se retrouver dans une tempête de poussière où finalement, ce n'est pas les bourrasques qui vont nous faire déstabiliser. C'est plus l'opacité de l'atmosphère. On ne verra plus où on met les pieds, quoi. Alors, ça, c'est assez bien fait dans Seul sur Mars, où l'astronaute est perdu. Donc, il n'arrive pas à retrouver son vaisseau. Par contre, il se prend l'antenne dans le ventre. Ça, ce n'est pas du tout réaliste parce que l'antenne ne peut pas se décrocher avec le vent martien. Le vent ne sera pas jamais assez fort pour faire ce genre de choses. Voilà.
On fait un test et on vous propose une photo de Mars. Vous êtes capable d'indiquer l'endroit où elle a été prise ?
C'est une bonne question. Si je vois du blanc, je peux vous dire déjà s'il y a de la glace, vous dire ouais, c'est pôle Nord ou pôle Sud. Mais à part ça, non, ça se ressemble quand même énormément. Alors, je ne suis pas géologue de formation. Hein. Donc,
non,
un collègue géologue pourrait peut-être vous dire,
moi, je veux dire
là, je reconnais tel minéral, c'est plutôt dans tel endroit.
Je suis martien, j'ai étudié la Terre, ouais. J'ai vu qu'il y avait une tour Eiffel, j'ai vu qu'il y
avait... Ah oui, ouais, mais Mars, ça se ressemble quand même beaucoup. Alors oui, il y a des endroits très très plats, donc là, on peut dire... Ça ressemble fortement aux plaines du Nord, hein, parce que sur Mars, vous avez l'hémisphère Nord qui est constitué très majoritairement de plaines, des volcans au niveau de l'équateur à peu près, et puis ensuite, on a tous les hauts plateaux de l'hémisphère Sud, où là, c'est plus chahuté, il y a beaucoup de cratères. Donc si on voit des cratères, déjà, on peut dire ouais, c'est plus probablement l'hémisphère Sud. Si on voit de la glace, voilà, ça va être soit le glacier, la calotte polaire Nord ou Sud. Et puis ensuite, voilà, on peut essayer d'affiner en fonction, en tapant le caillou et puis en regardant la composition des minéraux.
Vous pouvez me décrire Mars ?
La planète Mars, c'est la planète rouge, non, c'est pas ça.
Rouge de loin.
Oui, rouge, ouais, on peut, oui. C'est comme ça qu'on la qualifie, ouais, tout à fait.
Ouais. Approchez-vous.
Ouais.
Je suis pas du tout branchée planète, même si ça m'intéresse un petit peu, mais de loin. J'avoue que je peux pas vous la décrire. Pour moi, enfin, c'est quelque chose de rond, quoi, avec des aspérités de... Elle est habitable, cette... Est-ce qu'elle est éventuellement... Est-ce qu'il y a de la vie sur cette planète ?
C'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche à savoir, ouais, tout à fait. Ouais.
Il me semble.
Tout à fait.
Mais je suis un peu essoufflée, excusez-moi.
Bah oui, mais ce sont les marches.
Les marches du
on
passage
Pommeray. On va indiquer à nos auditeurs, on est dans le passage Pommeray, et je vous cueille au haut des marches.
Il me semble avoir entendu que... Oui, on avait effectivement décelé éventuellement des possibilités de...
Mais c'est, ouais, on cherche à savoir si la vie aurait pu apparaître sur Mars. Oui. Pour l'instant, on n'a encore aucune trace qui a été détectée, mais c'est ce qu'on cherche à savoir.
Je ne pourrais pas vous en dire plus, parce que je ne suis pas une scientifique.
On serait sur Mars. Brigitte souffrirait moins de monter des marches.
Ah, tout à fait. Ouais, elle aurait l'impression de peser 3 fois moins lourd.
On est en apesanteur également sur ces planètes.
En fait, c'est pas une forme d'apesanteur où on a l'impression de flotter, mais on se sent plus léger, comme s'il y avait des élastiques qui nous tiraient, comme quand on marche dans l'eau en fait.
Mais il y a pas de projet encore pour repartir.
Pour y aller, non, il y a des gens qui en parlent, Elon Musk notamment, pour repartir dans les années SpaceX là, mais c'est surtout des effets d'annonce pour récupérer de l'argent auprès de...
C'est pas celui-là qui veut partir avec une femme, là. Non, c'est pas celui-là.
Ah non, ça, c'est un Japonais, ouais. Un Japonais. Mais il est financé par Elon Musk, justement. C'est Elon Musk qu'on voit la fusée, il met un Japonais, et le Japonais cherche une femme
Un petit peu, quand même.
Tout ça, c'est... je trouve que c'est beaucoup de démagogie pour... disons que les agences spatiales, c'est plus à l'horizon 2000, 2040-2050 qu'on peut envisager qu'il y aurait des humains sur Mars, peut-être.
Alors là, je serais presque centenaire. Mais...
Oh. J'espère le voir de mon vivant, j'espère. Mais bon, on verra.
Vous auriez autour de vous une personne qui, tous les matins, allumerait son ordinateur, téléchargerait des images de Mars. Vous considériez qu'il est un peu fêlé, qu'il...
Non, non, pas du tout. Non, parce que j'ai eu dans mon entourage quelqu'un qui était très, très intéressé par ce genre de choses. Donc, non, pas du tout.
C'est pas étonnant.
Non, pourquoi ?
Ça me rassure. Moi, c'est ma passion, en fait. Là, c'est ce que je fais, moi.
Dans la mesure où les gens sont passionnés, vous voyez, moi, j'arrive du cinéma parce que je suis très, très cinéma, littérature, art et tout ça. Donc, je conçois très, très bien qu'un scientifique s'intéresse à... Enfin, je ne sais pas comment on peut vous qualifier.
Oui, c'est scientifique et puis photographe, en fait, en quelque sorte aussi. Parce que moi, je m'amuse à traiter les photos qui sont prises par les robots. Je les assemble, je corrige les couleurs pour qu'on ait l'impression de voir Mars comme si on y était, quoi. Voilà.
Ah oui, non, pour moi, non, c'est pas comme les... Comme les mathématiciens ou les physiciens ont la tête dans les étoiles, vous les avez sur... Vous avez la tête sur les planètes.
Voilà. J'espère mais c'est le côté répétitif, tous les matins, parce que Mars...
Ah oui, ça...
Mais le robot, il roule et donc il découvre de nouveaux paysages que personne n'a jamais vus, qu'aucun œil humain n'a jamais vu. Moi, c'est ça qui me passionne.
Il y a toujours des découvertes à faire.
Ah, on trompe sur un paysage que personne n'a jamais vu. C'est ça qui me passionne.
Il y a toujours exploré,
en
fait.
C'est l'exploration, hein. Moi, ce qui me fait vibrer sur ces images, c'est comme Christophe Colomb traverse l'océan, en fait, et il tombe sur un territoire, terra incognita, voilà, on ne connaît pas, en fait. Alors, on ne sait absolument pas sur quoi on va tomber. Bon, Mars, il y a des satellites, en fait, on peut voir de haut. On ne va pas découvrir une base secrète des Martiens. Non, on l'aurait vu depuis l'orbite, mais malgré tout, c'est quand même de l'exploration.
Eh bien, en attendant d'aller sur Mars, je vais prendre un transport en commun nantais qui ne m'emmènera pas sur Mars.
Ensuite, votre galerie d'images, il a fait des superpositions avec des villes.
Oui, j'ai fait ça avec Ryugu, notamment. Alors en fait, je voulais parler avec mes élèves de l'exploration de cet astéroïde. Ryugu, c'est un astéroïde, dans la ceinture d'astéroïdes, exploré par la sonde japonaise Hayabusa 2, donc une mission qui est partie en 2014 et qui est allée collecter des échantillons de cet astéroïde. Donc ça, c'était une quasi-première, parce que les Japonais avaient déjà fait ça sur un autre astéroïde. Ils voulaient le refaire, en fait, sur ce deuxième astéroïde-là. Donc c'était, en septembre, avec mes élèves, j'avais cours, et je voulais leur parler d'une des parties de la mission qui consistait à lâcher des petits robots sur Ryugu. Et pour leur faire comprendre un peu la taille de Ryugu, parce que Ryugu, ça a un peu la forme d'un diamant, mais on a du mal, en voyant les photos, à savoir si ça fait si c'est un caillou, si c'est une montagne, une colline, ou la taille de la France. Donc je me suis amusé à chercher sur Google Earth. Bon, déjà, je connaissais la taille de l'astéroïde, ça, on la trouve sur Wikipédia ou autre. Et puis, je suis allé sur Google Earth, et puis j'ai regardé, l'astéroïde fait 900 mètres. Qu'est-ce qui fait 900 mètres à l'échelle de ma ville ? Et donc, je suis allé chercher le lycée, et j'ai posé l'astéroïde sur le lycée, voilà, sur le bâtiment où on était, comme ça. Bon, aucune chance de survie, hein, mais c'était juste pour rigoler, pour qu'ils se rendent bien compte de la taille de l'astéroïde. Et puis, quand j'ai fait ça, ils ont été surpris, et puis... ils ont bien aimé, donc je me suis amusé à le faire sur Paris et puis après sur New York, il y a des amis sur Facebook, j'ai publié ça, ils font « Ah, tu peux le faire sur Nancy » et tout, donc voilà, ça a commencé à se diffuser. Et je trouve que c'est une démarche de vulgarisation qui permet de donner du sens aussi à tous ces astres qu'on voit dans l'espace. Des fois, on a du mal à raccrocher ça au réel, en fait, à ce qu'on voit tous les jours. C'est pareil, les ouragans sur Jupiter sont gigantesques, il y en a un qui fait la taille de la Terre, mais quand on le voit, on ne sait pas si c'est... si c'est la taille de la France, si c'est la taille d'un département ou la taille de la Terre. Donc, ramener à l'échelle humaine, en quelque sorte, ça permet de vraiment donner du sens à tous ces objets.
Par rapport à votre conférence, on a fait un peu le tour.
J'ai essayé de rassembler dans cette présentation ce que moi je considère comme parmi les plus belles photos qui ont été traitées par les astronomes amateurs. Alors forcément, je ne peux pas être exhaustif, j'en ai déjà présenté beaucoup. J'ai passé en revue la quasi-totalité du système solaire, avec des photos mais aussi des vidéos, parce que maintenant on dispose vraiment de capacités de calculs sur les ordinateurs qui permettent de faire de magnifiques vidéos de survol, simulées en quelque sorte. Tout ça nous amène à, enfin maintenant quasiment dans une autre dimension, parce que vous avez peut-être entendu parler de la réalité virtuelle. Ça consiste à mettre un casque et ce casque, quand on déplace sa tête, eh bien on a l'impression d'être dans un nouvel environnement virtuel. Et j'ai des collègues à Nantes, au laboratoire planétologie de Nantes, hein, Stéphane Lemoëlic et François Civet, qui développent des technologies pour traiter les données notamment donc, de Curiosity, mais aussi de Rosetta, la sonde Cassini, pour pouvoir créer des applications permettant de se projeter sur Mars, sur Titan, sur la comète Churyumov-Gerasimenko. On a vraiment l'impression d'y être. On a vraiment l'impression de se téléporter sur ces mondes.
Pour l'instant, on reste dans le cadre de notre galaxie.
Oui, parce que sur les autres mondes, on va dire... Alors déjà, là, on est dans notre système solaire, autour des mondes qu'on a explorés avec des sondes. On pourrait parler d'exoplanètes et simuler des mondes totalement extraterrestres avec plusieurs soleils dans le ciel, comme dans Tatooine, comme dans le film Star Wars. Ou alors carrément d'autres planètes qui seraient assez proches les unes des autres. On pourrait essayer d'imaginer, de simuler ça. Maintenant, parler d'autres galaxies, c'est encore plus lointain. C'est toujours faisable, mais bon, on ne s'appuie pas sur des données qui ont été acquises par des robots. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est justement, on a envoyé un robot, il a fait des photos 3D, et on peut recréer l'environnement comme si on y était. Voir l'imprimer en 3D ou autre.
Ça ne vous intéresse pas, ce qui est pris depuis la Terre?
C'est marrant, mais en tant qu'astronome amateur, j'ai jamais eu de télescope à moi. Je ne me suis jamais acheté de télescope. J'ai toujours squatté, on va dire, chez les membres du club Van Astronomie, où j'allais observer derrière leurs oculaires. Mais par contre, peut-être, j'ai toujours ça aussi, c'est un projet que j'ai en tête, d'acheter un télescope pour faire la photographie, notamment de la Lune, parce que je trouve que les paysages lunaires sont magnifiques à observer rien qu'au télescope. Alors après, Mars, Saturne, c'est beau, mais faire de l'imagerie planétaire, je suis tellement habitué aux photos directement prises depuis la surface que depuis la Terre, je serais peut-être un peu déçu. Bah, c'est différent, c'est totalement différent.
On n'a pas tout dit.
Bah non, il y a beaucoup de choses à dire.
Vous pouvez consulter votre galerie.
Voilà, les gens peuvent aller voir ma galerie. Donc pour y aller, c'est pas compliqué. Il suffit de taper Thomas Appéré et Flickr, F-L-I-C-K-R. C'est le premier lien sur Google pour visiter toutes les photos que je réalise.
On peut vous suivre sur Twitter.
Sur Twitter aussi, ouais. Donc Thomas _ Appéré sans les accents.
Et là, tous les jours, en publication?
Pas tous les jours, parce que j'ai des copies à corriger, comme tout enseignant, des cours à préparer. Mais par contre, quand il y a des événements liés à l'astronomie et surtout à l'exploration spatiale, j'essaie de relayer ça. Et notamment lorsqu'il y a la NASA qui suit un lancement de fusée ou l'arrivée d'une sonde sur une planète, donc tout est en anglais. Et moi, j'aime bien traduire en français, justement, pour le public français, ce qui est dit lors de ces conférences de presse.
Votre site, il est en français, en anglais?
Oui, je fais ça exprès, justement, parce que l'anglais, parce que ces traitements d'image, ça se fait au niveau international, mais en français aussi, parce qu'il y a tout un public français qui comprend pas forcément l'anglais, donc j'essaie de m'efforcer à traduire tout dans les deux langues.
Merci à Thomas Appéré et merci à
Brigitte
pour leur libre participation à ce programme réalisé avec le concours de la Société d'Astronomie de Nantes.
Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview en marchant?
J'aime bien, parce que ça permet d'expliquer, de se dévoiler aussi un peu, de parler de sa passion. Et puis moi, mon métier, c'est transmettre des connaissances, transmettre une passion. Donc moi, je trouve ça très intéressant de le faire auprès des Nantais qui peut-être aussi j'aurais peut-être suscité l'envie d'aller découvrir ces archives de missions spatiales. Et puis il y aura peut-être des Nantais qui feront des photos maintenant et avec qui on partagera notre passion.